sujet qui est lié aux prophéties. Cela fait 2000 ans que les chrétiens prient que ton règne vienne. Il y en a qui le récitent, il y en a qui le prient vraiment. Peut-être vous faites partie de ces gens qui priaient vraiment que ton règne vienne. Ce règne, il va démarrer après le retour de Jésus sur terre, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Je vais vous donner beaucoup de textes ce matin, je vous encourage à les noter. Il est impossible que vous vous souveniez de toutes les références. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'il y a quand même dans la Bible des prophéties qui doivent être expliquées, des textes qui doivent être expliqués. Nous sommes dans un monde extrêmement difficile et beaucoup de chrétiens se font piéger. On vient d'entendre un chant, vous n'avez peut-être pas retenu toutes les paroles, mais ce chant quand même nous demande d'honorer les parents, de faire certaines choses afin que Dieu ne nous résiste pas. Et je peux vous dire que beaucoup de chrétiens résistent à Dieu. Certains croient résister au diable, mais je peux vous dire que beaucoup de chrétiens résistent à Dieu. Ce chant, ça vaudrait la peine de le réécouter après cette prédication. Je peux vous dire qu'on le réécouterait certainement d'une manière différente. Je vais essayer d'être clair, je vais essayer d'être concis pour vous expliquer beaucoup de choses, mais qui nous permettent surtout, non pas de comprendre des prophéties, mais surtout d'être prêts. Beaucoup de chrétiens ne se préparent pas à la rencontre de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils vont à l'église, ils chantent, etc. Je le répète souvent. Mais leur piété est superficielle parce qu'ils ne réalisent pas que Jésus-Christ va revenir. Vous savez, ce qu'on voit en ce moment, par exemple, on va partir un peu dans les informations. Vous voyez beaucoup de choses aux informations. Je ne sais pas ce que vous pensez lorsque vous voyez ce qui se passe à Nantes. Vous savez, cette fameuse zone-là. Quand vous voyez tous ces gens qui se battent contre nos CRS, lorsque vous voyez ce qui se passe avec les cheminots, vous pouvez vous poser la question. Alors on va d'abord lire quelques textes pour que vous compreniez bien que tout ça, c'est contrôlé, mes frères et sœurs. Dans Ésaïe, au chapitre 3, il y a les conséquences du péché dans une nation. Il faut bien comprendre ces choses. Beaucoup de gens sont là et ils se font piéger. Ils se font piéger. Et le diable, ce qu'il veut, lui, c'est que vos prières ne soient pas exaucées en devenant rebelles. Est-ce que vous comprenez? La volonté du diable, il est rusé. Croyez-moi qu'il est rusé. Et il fait tout pour que nous ayons ce cœur rebelle. Vous avez vu les journalistes, mais même les syndicats. Alors en fait, ne pensez pas que je vais faire de la politique ce matin. Mais c'est pour vous expliquer que nous sommes dans une société qui est contrôlée par Satan. Et que tous ces syndicalistes, toutes ces revendications génèrent et préparent quelque chose. Dans Ésaïe au chapitre 3, il est parlé de Jérusalem qui est désintégrée à cause du péché et quelques conséquences. On va juste lire un texte qui nous intéresse, le verset 5. Regardez bien mes frères et sœurs, je ne vais pas vous donner tous les textes que j'ai à cœur, mais quelques-uns pour que vous compreniez bien. Ésaïe, chapitre 3, on va lire le verset 4 et le verset 5. « Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. » Quand vous voyez ces bagarres entre nos enfants, parce que ce sont des jeunes qui se battent, contre les CRS, vous comprenez ces paroles. C'est inévitable. Quand vous voyez ce qui se passe à Nantes, ce qui se passe est contrôlé. Vous comprenez bien que nos gouvernants, même s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, savent très bien ce qu'ils font. Mais ne vous mettez pas en tête de penser que ce sont des idiots. Ce sont des hommes qui ont un esprit de contrôle. Et tout est organisé de telle sorte que ça va faciliter la venue de l'Antéchrist et que c'est le peuple de France et les peuples d'Europe qui demanderont un dictateur. Ça génère une telle révolte que les gens, il y a des gens même qui commencent à redemander la peine de mort. Vous n'avez pas entendu ? Vous écoutez les informations et les gens disent « remettez la peine de mort ». Tout cela, mes frères et sœurs, est contrôlé. L'ennemi contrôle tout. Ne vous imaginez pas que nous avons affaire à des imbéciles. Nous avons affaire à des hommes qui sont en train de préparer l'avenue de l'Antéchrist. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que nous nous rébellions. Hier, un chrétien me téléphonait de je ne sais pas d'où. Il me dit, monsieur Hugo, qu'est-ce que vous pensez? J'ai un ami qui est chrétien. Il est tout le temps en train de critiquer le gouvernement, d'insulter le gouvernement. Et j'ai dit, vous pourrez dire à ce frère que ses prières ne seront pas exaucées. Parce que celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. C'est écrit? Et ils s'attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le but du diable, c'est que les gens qui sont dans l'ignorance deviennent des rebelles. Ils ne se rendent pas compte, ils sont là en train de critiquer. Tout ça, c'est voulu. Vous comprenez bien que n'importe qui intelligent ne commettrait pas des erreurs aussi graves. Mes frères et sœurs, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas que le règne de Dieu va venir. 1000 ans de règne de paix sur la terre, où Jésus-Christ sera le roi de toute la terre. C'est écrit, vous le savez que c'est écrit. C'est important, on peut le lire ce verset. J'ai plein de versets, mais il faut que vous compreniez bien, c'est dans Zacharie. Mes frères et sœurs, je vais vous donner des versets que vous compreniez bien ma pensée ce matin. Ça fera un peu, ça ne sera pas que du spirituel, mais vous comprendrez que certaines choses doivent arriver. Et tout se met en place. Dans Zacharie au chapitre 13, c'est clair, le jour où Jésus reviendra, après l'Apocalypse, après les 7 ans de tribulation et de grande tribulation, Jésus reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, nous serons tous avec lui, tous ceux qui auront bien sûr persévéré jusqu'à la fin. Car le but, mes frères et sœurs, c'est que nous persévérions et pas que nous nous rebellions et que nous résistions à Dieu comme nous l'avons entendu dans ce cantique. Dans Zacharie au chapitre 14, c'est le retour de Jésus-Christ, pas l'enlèvement, le retour après les 7 ans de tribulation. Et il est dit au verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. Alléluia. Ça plaît aux chrétiens, mais ça ne plaît pas beaucoup de gens, je vous le dis. Le Seigneur sera roi, Jésus-Christ sera roi de toute la terre. Vous comprenez pourquoi il y a toute cette opposition sur Israël. Alors un verset qui nous parle de l'endurcissement d'Israël. Dans Romains au chapitre 11 et au verset 25, c'est un mystère. Mais on le comprend très bien quand on connaît les prophéties. Dans Romains au chapitre 11 et au verset 25, Paul explique qu'il y a un mystère. C'est que vous avez vu l'endurcissement du peuple d'Israël par rapport au Messie, par rapport à Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Bien sûr qu'il y a plein de Juifs qui se convertissent, de la même manière qu'il y a plein de Français qui se convertissent. Mais regardez bien ce verset. Il faut comprendre que depuis que Jésus-Christ a institué l'Église, le projecteur de Dieu éclaire le monde, l'Église. Le peuple d'Israël est à part pour le moment. Enfin, à part. Depuis la restauration du pays d'Israël, il refait partie de la volonté de Dieu. Mais regardez, dans Romains au chapitre 11, au verset 25, il faut bien comprendre. Regardez bien ce verset. Il va y avoir un relais qui va être pris après l'enlèvement de l'Église par le peuple d'Israël. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère parce que les gens ne le comprennent pas. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Lorsque la totalité des païens, comme nous, qui sommes devenus des chrétiens, seront rentrés dans le royaume de Dieu, l'Église sera enlevée. C'est des mystères, mais quand même. C'est super bien expliqué dans la Bible. Ce matin, je lisais l'évangile de Luc. Quand Jésus dit, il dit aux pasteurs de l'époque, aux chrétiens, enfin aux responsables, il dit, mais quand vous voyez les nuages à l'ouest, vous savez que le soir, il va pleuvoir. Quand vous voyez le vent du midi ou le vent du sud qui se lève, vous savez qu'il va faire chaud. Et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Il y a des choses, c'est vrai, qu'elles sont difficiles à comprendre. Mais au fur et à mesure que vous lisez la parole de Dieu, ce sont des choses qui sont claires. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que Jésus ne va pas tarder à enlever l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre qui se prépare, une grande guerre qui se prépare. Vous ne la voyez peut-être pas se profiler, mais je peux vous dire qu'il y a une guerre qui se prépare. Cette guerre, elle est toujours confondue, même par les théologiens, c'est dommage en plus, parce que c'est facile à comprendre. Elle est dans Ézéchiel 37, 38 et 39. Ézéchiel 38 et 39. C'est une guerre qui est présentée, beaucoup de gens n'y comprennent rien, mais quand même, si vous le lisez 50 fois, vous verrez que vous commencerez à comprendre. Et je suis sérieux. Le prophète Ézéchiel, c'est vraiment un livre pour les Juifs. Bien sûr qu'on peut, prendre des textes et les utiliser pour l'Église, parce que ça tient debout. Par exemple, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, vous avez cette vallée d'ossements desséchés qui est le peuple d'Israël. C'est dit, tout ce que je vous dis, je l'ai vérifié. Ne commencez pas à me poser des questions à la fin, et vous avez trouvé ça où ? C'est dans la Bible. Ézéchiel 37, c'est Israël qui redevient une nation après 2000 ans de dispersion. C'est écrit comme ça. C'est le peuple d'Israël qui redevient une nation. D'ailleurs, au verset 21 de ce chapitre, on le voit, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, voyez, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus que deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Au chapitre 38, il y a cette fameuse guerre, chapitre 38 et 39. Alors, beaucoup de gens s'imaginent que c'est une fameuse guerre, c'est la fameuse guerre qu'il y a à la fin de l'Apocalypse, cette fameuse guerre de Gog et Magog, cette fameuse bataille qui aura lieu dans la vallée d'Armageddon. C'est impossible. C'est impossible, pourquoi ? C'est facile à comprendre, je vais vous l'expliquer. Donc, et après, au chapitre 40, il y a la construction du temple qui est prêt à être construit. Je ne sais pas si vous le savez. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les juifs orthodoxes, le jour de Pâques ? Je ne sais pas si vous regardez les informations internationales. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ça fait 2000 ans qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu l'autorisation par le gouvernement. Bon, c'est vrai, c'est les orthodoxes. Mais eux, ils en meurent d'envie. Ils ont pu sacrifier deux agneaux. Le jour de Pâques, tous les sacrificateurs, c'était la tribu d'Aaron, les descendants d'Aaron, qui ont pu sacrifier un agneau, parce que pour eux, le seul moyen d'avoir le pardon, n'oubliez pas qu'ils sont dans l'Ancien Testament, c'est le sang de l'agneau. Et ça fait 2000 ans qu'ils attendaient ça. Et ils ont eu l'autorisation du gouvernement, parce que le gouvernement est pressé par toute l'extrême droite israélienne qui pousse à la reconstruction du troisième temple. Et tout ça, ça se met en place. À partir du chapitre 40, il y a la construction du troisième temple. Cette guerre, on va lire le verset de suite, au chapitre 39 et au verset 9, c'est pas la guerre qui a la fin du millénium, comme des milliers de théologiens l'indiquent, c'est une guerre qui a juste avant, juste après, l'enlèvement de l'Église. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, tout ce que je vous dis, je l'ai vraiment vérifié. Ézéchiel 39, verset 9, « Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. » Vous comprenez bien qu'après quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il y a de suite après la bataille d'Armageddon dans l'Apocalypse ? Qu'est-ce qu'il y a de suite après l'Église, tout le monde, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. De suite après. Donc 7 ans, c'est bien la preuve que c'est une guerre qui aura lieu avant, juste après l'enlèvement de l'Église. Mes frères et sœurs, c'est archi grave. Parce que ça a été écrit, vous savez, ce matin, quand on chantait « Majesté, louez sa majesté », je me dis quand même, cette prophétie d'Ézéchiel, elle a été écrite il y a 2700 ans, alors que la Russie n'existait même pas. Dieu avait prophétisé ces choses. Et c'est écrit, regardez avec moi dans... il faut lire ces choses. Alors, regardez dans Ésaïe 46. Je vous donne des versets. Ils sont un petit peu donnés un bâton de chaise, peut-être, mais ça ne fait rien. Je vous demande de les noter et de les méditer. Dans Ésaïe, au chapitre 46, du verset 9 au verset 11, Dieu déclare ce qu'il va faire. Il le dit. n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la Bible qui est un livre prophétique. Il y a des chrétiens qui peut-être s'intéressent à Nostradamus, je ne sais rien, mais je peux vous dire que tout ça, c'est des menteurs. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ésaïe 46, verset 8. « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous avez vu ? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Amen. Vous savez pourquoi je fais cette exhortation ? Parce que je suis poussé à la faire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un mois de ça, je regarde régulièrement les informations sur I24. C'est une chaîne juive. Et il y avait un reportage. Écoutez bien, je vous le dis, c'est très sérieux. Et ce n'est pas pour de l'information. C'est pour que vous vous prépariez davantage. Nous, nous préparions davantage. Il y avait un gars qui expliquait qu'il habite dans le village d'Amona et dans la vallée d'Amona. Et ces juifs qui habitent là depuis un an, deux ans, ils sont expulsés. Ils étaient furieux, bien sûr. Ils étaient furieux, ils sont replacés dans des villages juifs, dans des colonies. Et ils parlaient d'Amona. Et je me disais, mais ça te dit quelque chose, Amona. Et dans Ézéchiel, au chapitre 30, au 39, il y a une vallée que Dieu prépare pour que toute la multitude qui va monter contre Israël soit enterrée. Donc il faut que cette vallée elle soit nettoyée. Regardez Ézéchiel 39. Mais regardez bien mes frères et sœurs. Je sais que le Seigneur m'a parlé et qu'il m'a montré certaines choses. Ézéchiel 39, verset 15. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent. Dans la vallée de la multitude de Gog, il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Peut-être que ça ne vous dit rien, je sais. Mais on va quand même comprendre les choses. Pour beaucoup de gens, quand même, vous le savez. En l'an 70, le temple a été rasé. Israël a été dispersé dans toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. Et même, moi j'ai lu des articles, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, des poètes, des philosophes, des politiques qui, il y a un siècle, commençaient à prendre des photos d'Israël pour dire que c'est une terre qui ne serait jamais reconstruite, etc. Tellement c'était la désolation. Et Dieu a décidé que les Juifs reviennent chez eux. Alors que c'était impossible. D'ailleurs, c'est Ésaïe qui dit, mais une nation peut-elle naître un jour ? Ben, c'est ce qui s'est passé le... Est-ce que vous savez la date ? Le 14 mai 1948. Dans un mois, il y aura 70 ans. Dieu a choisi Israël. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il fallait bien que le Sauveur naisse d'un pays. Le choix de Dieu, c'est Israël. Tous les pays sont en colère contre ça. Tous les pays. Parce qu'ils ne savent pas que... Vous voyez ce qui se passe, rien que quand on a déclaré... Enfin, quand Donald Trump a déclaré que Jérusalem serait la capitale d'Israël, vous avez vu ce qui est en train de se passer. Mais le problème, c'est que Jérusalem ne sera pas la capitale d'Israël. Jérusalem sera la capitale du monde entier. Et ça ne plaît pas aux nations. Et bien sûr, il y en a un qui fait tout pour détruire Israël. Et ce que vous voyez prépare la venue de l'Antéchrist. Ce que vous voyez au Moyen-Orient prépare cette fameuse guerre. Je le répète, l'Église ne verra pas cette guerre. L'Église ne peut pas voir cette guerre. Ce n'est pas possible. Pour la simple et unique raison que toute la Bible nous enseigne que le peuple de Dieu, il est sauvé de la colère. Il est épargné de la colère. Si vous avez lu la Bible, je n'ai même pas besoin de vous chercher les textes. Vous avez plein de textes où le Seigneur, où l'apôtre Paul, l'apôtre Jean répètent sans cesse que l'Église est sauvée de la colère. Et ça, ce n'est pas un petit, comment dirais-je, les prémices d'une colère. C'est vraiment la colère de Dieu qui va venir sur la terre. Au chapitre 38, au verset 18, vraiment c'est la colère de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi, si le temps me le permet bien sûr. Ézéchiel 38, verset 18. « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. » Et je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte. Nous ne nous rendons pas compte ce qui est en train de se préparer, soit pour la venue de l'Antichrist, soit pour cette guerre. On voit les gens ils sont là. Est-ce que... D'ailleurs, elle est déjà en place, cette guerre. Si vous regardez vraiment la télévision, les informations, pas les journalistes, excusez-moi, j'allais citer des partis politiques, mais il faut être honnête. Il y a des journalistes qui, je vous assure, ce sont des manipulateurs. Ils disent ce qu'ils veulent. Et nous devrions demander au Saint-Esprit qu'il nous éclaire. Le rassemblement d'Israël est là. Le temple va être reconstruit. Avant que ce temple soit reconstruit, il faut qu'il y ait cette guerre. Cette guerre. Alors, on lit quelques versets, s'il vous plaît. Hein ? On va lire... Oui, c'est important. Je sais que certains ils vont planer, mais ça ne fait rien. Ézéchiel 38, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Gog, c'est un homme. Au pays de Magog. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Prince de Roche, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée avec ceux de Perse. La Perse, c'est l'Iran. Je ne sais pas si vous comprenez ça, comprendre. L'Éthiopie de ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Quand Moïse a pris une femme éthiopienne, c'est la Somalie d'aujourd'hui. Et de Pout, c'est la Libye. Tous portant le grand, et le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes. La maison de Togarma c'est la Russie. La Turquie. Et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi. Tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu parles, ça fait 2700 ans. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Alors pourquoi il dit ça ? Parce qu'à l'époque où ça a été écrit, toutes les villes étaient fortifiées. Toutes les villes avaient des murailles autour. Aujourd'hui, il n'y a aucune ville en Israël, mais c'est comme en France, où il y a pas des, elles ne sont pas fortifiées, comme la cité de Carcassonne qui est fortifiée, vous voyez. C'est pour ça qu'il dit, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes, et les peuples nombreux avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Tous dans les habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Alors pour nous chrétiens, le problème il est spirituel. Mais pour les géopolitiques, pour les politiciens, pour les économistes, pour les sociologues, etc., c'est un problème économique. C'est pour ça que, en vérité, tous pensent que c'est pour la richesse qu'ils viennent de découvrir en Israël. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant des lieux élevés du pays. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé la multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ?» Vous voyez, le monde, eux, pensent que la Russie, l'Iran et tous ces pays coalisés vont envahir Israël pour le butin. Et c'est vrai que c'est pour ça. Parce que les richesses, par exemple, de la Russie sont limitées à 30-40 ans, les richesses souterraines. Et ils savent très bien qu'Israël est blindé de milliards de potassium sous la mer Morte. Moi, j'ai regardé. J'ai été sur Internet avant de faire cette étude. Et c'est impressionnant, la richesse d'Israël. Ils viennent de découvrir dans la mer Méditerranée, mais qui appartient à Israël. Des strates de pétrole, elles font 300 mètres d'épaisseur. Normalement, les strates de pétrole, partout en Arabie Saoudite, etc., elles font 30 mètres. Vous l'avez vu ce reportage. Et en Israël, ils viennent de trouver du pétrole, les strates font 300 mètres d'épaisseur. Ça veut dire que ça représente des centaines de milliards de dollars. Ils ont trouvé du lithium sous la mer Morte, du potassium. Le potassium, vous savez, tout ce qui sert à l'engrais pour enrichir les terres. Du sodium, du gaz. Ils ont trouvé sous le plateau du Golan des milliards de dollars, de tonnes de gaz. Et vous comprenez bien qu'il y en a un, il sait très bien que ça va l'intéresser. C'est pour ça que ça se passe. C'est économique, mais pour nous, nous savons que derrière, c'est le retour de Jésus-Christ qui est là derrière. C'est pour ça que toutes les nations s'élèvent contre Israël. Pour faire un grand butin, oui, c'est pour faire un grand butin. Quand vous écoutez ces spécialistes, ils vous expliquent tous que la Russie est en train de prendre du collier. Pourquoi ? Eh bien pour ça, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui prenne le dessus. Hein. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, Diagog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Toi et tes peuples, et nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce de toi ? Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux ? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre, les montagnes seront renversées. Les parois des rochers s'écrouleront. Toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes les montagnes. Dit le Seigneur l'Éternel, l'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et ils sauront que je suis l'Éternel. Verset 2 du chapitre 39. Je t'entraînerai. Je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Dans la Bible, quand il parlait du nord, le septentrion, ou du sud de l'est, c'est toujours, bien sûr, par rapport à Israël. Le pays qui est à l'extrême nord, trois fois, il est dit, regardez, c'est pour que vous compreniez que j'ai médité sur le sujet. Ézéchiel 38, verset 6, il est dit, à l'extrémité du septentrion. Vous y êtes ? Au verset 15, tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion. On a lu dans le chapitre, verset 2 du chapitre 39, « Je te ferai monter des extrémités du septentrion. » Les extrémités du septentrion, le Liban, c'est juste au nord d'Israël. La Turquie, c'est au nord d'Israël, etc. L'extrémité du septentrion, du nord, c'est la Russie. C'est la Russie que Dieu a choisie, parce qu'en fin de compte, c'est ça, puisqu'il dit « Je t'entraînerai ». C'est un pays, vous avez vu comment Dieu parle de ce pays ? Vous savez, alors on pourrait Gog, vous voyez, Magog, le Roche c'est la Russie, vous voyez, Meshek c'est Moscou, Tubal c'est Tobol, des villes qui existent. Gog c'est un homme. Regardez ce que Dieu dit. Voici, j'en veux à toi, Gog. J'en veux à toi. Comment, pourquoi Dieu parle-t-il comme ça à un pays? Alors que, par exemple, Jésus, lorsqu'il parle des nations, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, il faut comprendre, mes frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Et pourtant, Dieu, parfois, parle de certaines nations d'une manière extrêmement sévère. J'en veux à toi, Gog. Pourquoi Dieu en veut à certains pays? Parce qu'il y a des pays qui ont cherché à détruire Israël. Il y a des pays comme la Russie qui ont cherché à détruire la parole. C'est Staline qui a fait détruire 80 000 églises quand il était président de la Russie, président communiste. Il a dit d'ailleurs, c'est intéressant d'aller sur Wilkie, ma chaîne, là, de temps en temps et de regarder. Il a dit, nous avons enlevé les tsars de la Russie, maintenant nous allons détrôner Dieu de la Russie. Et c'est pour ça que Dieu en veut à la Russie. Parce que c'est le premier pays au monde qui s'est officiellement déclaré athée. Athée, ça veut dire il n'y a pas de Dieu. Il y a des gens en France dont le pays, les gens ils sont incrédules, avant, oui, c'était l'inverse, il y avait des nations avec des dieux partout. Ça ne plaisait pas à Dieu non plus. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Parce que c'est des pays qui ont officiellement dit Dieu n'existe pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a de la religion en Russie. Oui. Les religions, vous savez, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, vous savez ce que Dieu en pense. Vous savez ce que Dieu dit de ceux qui prêchent notre Jésus, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et quand un pays s'autorise officiellement, au nom de son propre gouvernement, à dire que Dieu n'existe pas, Dieu en veut à ces pays. Pourquoi? Parce que ces pays ont chassé Dieu, ils ont cherché à détruire les Juifs, ils ont cherché à détruire la parole de Dieu. Et quand on regarde l'histoire de la Russie avec ce qu'ont fait tous ces dictateurs communistes, il faut le dire quand même, je peux vous dire qu'ils n'ont pas amené la bénédiction de Dieu dans leur pays. Et c'est de l'extrémité du septentrion qu'il y aura un dictateur comme et ça se recoupe avec tout ce qui est en train de se passer avec l'Iran. Alors regardez avec moi, je vais parler de l'Iran. Vous écoutez l'ayatollah Khomeini des fois, ses prédications? Ça vous intéresse? Non? Ben moi si. Alors regardez. Alors Ahmadinejad, il disait pareil, mais là c'est grave parce qu'ils le disent ouvertement à la télévision. Regardez le psaume 83. Mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez quelque chose. Tout est en train de se mettre en place. Tout. Absolument tout. Et je pense que Dieu veut que vous le sachiez, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas censé comprendre toutes ces choses, mais moi je suis censé me tenir devant Dieu pour vous les expliquer. Regardez ce qui est dit dans le psaume 83. Dans le psaume 83, c'est un psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Dans une version, j'ai lu, ils forment contre ton peuple des conciliabules secrets. Parce qu'à la télévision, ils nous disent ce qu'ils veulent. Mais en vérité, je peux vous dire qu'ils sont en train, dans le secret, de préparer certaines choses. Comprenez bien qu'on ne saura pas tout. Hein. Verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom. Alors Édom, moi je me suis renseigné, c'est vraiment l'Europe. Et les Ismaélites, bien sûr, c'est tous les Arabes, etc. Ils sont en train de s'unir pour essayer de détruire Israël parce qu'ils ne veulent pas de Jésus-Christ. En vérité, le problème, il est là. C'est un problème archi compliqué. Nous vivons ça d'une manière économique, mais le piège, mes frères et sœurs, je vous le redis, tant et tant de chrétiens sont en train de rouspéter contre M. Macron, en train de prier pour ces gens. Qu'est-ce qu'elle demande la Bible? Avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait ce matin? Est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui? Vous allez me dire, oh, mais hop, doucement, pasteur, tu n'as pas d'ordre à nous donner. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, ça c'est vrai. Mais je pense pouvoir vous donner des conseils qui vous permettront de vous préparer à rencontrer le Seigneur. Parce que lorsqu'on se rebelle, eh bien la Bible, c'est écrit que ceux qui se rebellent contre les autorités attireront une condamnation sur eux-mêmes. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche. Un chrétien, il n'est ni de droite ni de gauche. Un chrétien, il est du ciel. D'accord? Voilà, on va faire un parti politique, le ciel. Je ne pense pas qu'on sera nombreux, mais ce n'est pas grave. Mes frères et sœurs, un chrétien, il ne résiste pas à Dieu. Vous voyez le chant qui a été chanté, vous pouvez dire, ouais, c'est un chant. Mais réfléchissez. Moi, je crois que Dieu inspire nos choristes, nos meneurs de chant. Combien de chrétiens résistent à Dieu? Vous voyez, vous pouvez dire, moi, je ne suis pas loin de résister à Dieu. Mes frères et sœurs, une guerre approche. Dieu l'a accélérée par la venue de Donald Trump. Donald Trump, c'est un homme bizarre. Quoique j'aimerais bien discuter avec lui. Mais mes frères et sœurs, vous avez lu l'histoire d'Ésaïe. Vous avez lu comment Cyrus était un homme plus que bizarre. Cyrus, Dieu l'a utilisé pour que les Juifs, au bout de 70 ans d'exil, reviennent à Jérusalem. Mes frères et sœurs, quand vous voyez Cyrus, c'était des hommes malades. C'était des psychopathes. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. Pourquoi? Pour que les Juifs rentrent en Israël, au bout de 70 ans, et qu'ils puissent reconstruire le temple. Et de la même manière, moi j'avais dit à mon épouse, avant qu'il y ait les élections aux États-Unis, j'avais dit, si Dieu veut que les choses soient hâtées, parce que c'est écrit que Dieu hâtera les choses, il faut que ce soit un homme comme Donald Trump. Parce que tous les présidents ont dit, tous, depuis Nixon, tous ont dit que Jérusalem redeviendrait une nation, et ça ils le font tous pour avoir les évangéliques, parce qu'aux États-Unis, il y a 25% d'évangéliques aux États-Unis, d'assemblées de Dieu, hein, 25% de la population. Ils savent très bien qu'en faisant cette promesse, ils vont rafler la présidence. Mais personne ne l'a été, a eu le courage, parce qu'il faut du courage, il faut être vraiment comme Donald Trump pour le faire. Mais il a peur de rien. Mais Dieu a voulu que cet homme soit président, non pas parce qu'il a de la moralité, mais pour que les prophéties s'accélèrent. Et ça va aiguillonner tout le monde. C'est pour ça qu'il est dit dans Zacharie, regardez avec moi, regardez Ézéchiel. C'est important que vous le compreniez. Dans Zacharie, je sais pas si vous lisez ces prophéties, mais franchement, ça vaut quand même la peine. Regardez, dans Zacharie au chapitre 12, c'est en train d'irriter tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec l'UNESCO il y a 6 mois par rapport à Hébron. Vous l'avez vu. L'UNESCO est contre Israël. C'est quelque chose d'incroyable. Alors qu'eux, ils sont pas chargés de ça. Mais ils sont en train de se mettre contre Israël. L'ONU, c'est pareil. Tout le monde est en train. Et regardez ce qui est écrit dans Zacharie au chapitre 12. Oracle. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ce qui est en train de se passer va irriter toutes les nations de la terre. Mais vous le voyez, regardez de temps en temps ces reportages sur cette chaîne, sur la défense. Et ce sont que des militaires, des ex-généraux de l'armée de Tsahal, c'est pas des idiots, croyez-moi, qui expliquent ce qui est en train de se passer d'une manière politique et économique. Mais si vous avez le réflexe de projeter ça dans un problème spirituel. C'est un problème spirituel. De tout temps, ça a été un problème spirituel. De tout temps, le peuple juif a été rejeté. Nous, on le voit d'une manière aujourd'hui différente. Je prends un exemple. Prenons Pharaon. Pharaon a été le premier antisémite. D'accord? Il a cherché à détruire Israël. Vous vous rappelez comment il a cherché à détruire Israël? Il a cherché à détruire Israël. Dieu a ouvert la mer pour que le peuple soit protégé. C'était un antisémite total. Quand le peuple était dans le désert, ça me vient à l'esprit par rapport à la prophétie qui a été donnée tout à l'heure. quand le peuple d'Israël était dans le désert, même dans le désert, vous vous rappelez comment il s'appelle Amalek? Vous vous rappelez Amalek? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Amalek quand le peuple de Dieu était dans le désert? Il a essayé de le détruire. Vous vous rappelez cette histoire? C'est l'Exode chapitre 17, si je ne me trompe pas. Ou 16, 17. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, c'est pour vous expliquer. Peut-être que vous comprenez bien la prophétie de tout à l'heure. Il y a un combat. C'est un combat spirituel. Ça se passe dans les lieux célestes. Vous vous rappelez quand Dieu, ce que Dieu a dit à Moïse, quand le peuple d'Israël allait être détruit par Amalek, il a dit à Moïse, « Moïse, monte sur la montagne, lève les mains vers le ciel et combat comme ça. » Pourquoi? Parce que c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème militaire, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème spirituel. La preuve, quand Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne, de lever les mains et d'être soutenu par Aaron et Hur, c'est un problème spirituel. Vous le comprenez, mes frères et sœurs? Et Dieu, et vous rendez compte, quand Moïse baissait les mains, Amalek, non mais je ne sais pas si vous rendez compte, c'est la preuve que c'est un problème spirituel. Et Dieu dit, il y aura combat entre Amalek de génération en génération. Ça s'est passé après. Quand, du temps du roi Suérus, vous vous rappelez quand un certain Aman, un descendant d'Amalek justement, a essayé de détruire le peuple juif, vous vous rappelez? Dans toutes les provinces. Vous vous rappelez? Aman était un antisémite, Amalek était un antisémite. Alors on pourrait multiplier jusqu'à Hitler. Vous savez, quand moi j'étudie un peu, parce que franchement ces choses-là ça me préoccupe pour vous les expliquer. Vous avez vu comment Hitler a réussi à se mettre l'église chrétienne, que le pape bénissait les canons? Vous avez vu ça? Moi, j'étais petit, je me rappelle. Mais quand je me suis converti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Le pape qui va bénir les canons pour tuer les juifs. C'est un grand problème. Alors moi, je me suis renseigné, j'ai regardé sur les bouquins et tout. C'est très intéressant. Quand Jésus, regardez bien, c'est facile à comprendre. Quand Jésus a dit, pas tous les juifs, si vous allez sur Internet, il y a vraiment des fausses doctrines. Jésus a dit à des religieux, vous avez pour père le diable. Vous vous rappelez? Donc, certaines dénominations, je ne vais pas les citer, certaines dénominations ont dit le peuple juif, c'est un peuple du diable. Puisque le Seigneur Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et ça a diabolisé le peuple juif, et c'est pour ça qu'un certain Adolf Hitler a eu la main libre pour essayer de détruire le peuple juif. Et on pourrait voir, je parlais de Staline, je parlais de Lénine, il faut voir, c'est vachement intéressant d'étudier ces choses. Parce que vous comprenez que de tout temps, les hommes ont été antisémites. Alors aujourd'hui, vous allez dire, oh, mais c'est quoi, ça a changé. Maintenant, vous avez vu, il n'y a pas une semaine, un mois, sans qu'un président dans un pays célèbre une manifestation pour les Juifs, pour expliquer qu'ils sont antisémites. Vous avez remarqué, il n'y a pas une semaine. Mais en vérité, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Écoutez-moi, je ne sais pas si ça, c'est clair, parce que dans ma tête, c'est clair. Aujourd'hui, on n'est pas antisémite. On est antisioniste. C'est-à-dire, on est contre... que les Juifs reviennent en Israël. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pareil, mais c'est comme un avatar. Ça change chaque fois. C'était Pharaon, puis ça a été Amalek, puis ça a été Aman. Chaque fois, c'est un avatar. Ça, comme un virus. Ça change, mais le peuple, le monde est contre Israël parce que le diable veut détruire Israël. Parce que Jésus va revenir. Vous le croyez? Il va revenir. Alors les Juifs attendent le Messie, et pour eux c'est archi important qu'il y ait cette guerre. Moi ça m'arrive de temps en temps de discuter avec un Juif à Leclerc qui travaille, un gars qui s'y entend en plus. Et eux, ils attendent cette guerre. Pourquoi? Parce que cette guerre est le signe du retour de Jésus. Mais pour eux, ils ne savent pas que ça va être l'Antéchrist, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous, nous savons que le véritable roi des rois ne reviendra qu'après ces 7 années de tribulation où le monde, je le répète, est en train de se préparer à la mise en place de ce fameux Antéchrist qui sera juif. Parce que pour s'asseoir sur le temple de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il faut être juif, ou moins d'avoir une mère juive. Parce que des fois j'entends de ces trucs,
que telle personne, c'est l'antéchrist. L'antéchrist, je pense qu'on ne le verra pas, nous les chrétiens. Il est certainement là, mais on ne le saura pas. Mais une chose est sûre, cette guerre, je vois que le retourne, cette guerre, mes frères et sœurs, elle est, aux yeux des hommes, elle est politique, elle est surtout commerciale. Mais on ne va pas le dire que c'est comme ça. On ne va pas dire que c'est pour aller piquer le gaz, le lithium, le potassium et le pétrole des Juifs. Cette guerre, elle est utilisée autour de la Palestine. Vous savez, en Syrie et au sud du Liban, ils ont placé 160 000 missiles pointés vers Israël. Je ne sais pas si vous savez plus que les missiles de l'armée belge. Je ne sais pas si vous réalisez 160 000 missiles postés pour détruire Israël. Ils ont fait descendre des troupes russes, des troupes arabes, et ce sont tous des musulmans qui sont contre Israël. Ils ont choisi leurs soldats, croyez-moi. Ils ne sont pas là-bas pour faire du camping, je vous le dis. Ils sont là-bas pour détruire Israël. Alors, je pourrais vous donner d'autres explications sur ce prince. Je pense que c'est le président de la Russie qui va être ce fédérateur qui va rassembler l'Iran, la Turquie, c'est écrit. La Somalie, la Libye, ils vont se mettre tous ensemble pour attaquer Israël d'une manière brutale. Mais je voudrais terminer avec une note intelligente. Dans le sens, mes frères et sœurs, où l'Église, je vous le dis, ne peut pas voir cette guerre. Il va y avoir... J'avais demandé à mon fils, il n'a pas pu venir ce matin, parce qu'au chapitre 48 d'Ézéchiel, il y a les frontières du Grand Israël. Je ne sais pas si vous savez la taille qu'aura Israël. Ça va jusqu'au torrent de l'Égypte et ça va jusqu'à l'Euphrate. Je ne sais pas si vous voyez l'Irak. Vous savez qu'à partir de la Turquie, enfin je me mets à de ce côté, le nord de la Syrie est traversé par l'Euphrate. Et le nord de l'Irak est traversé par l'Euphrate. Et la frontière, ça sera le nord de la Syrie et le nord de l'Irak. Et tout ça, ça sera le Grand Israël. Parce que Dieu va intervenir, vous avez vu, ils vont se battre les uns contre les autres, c'est terrible. Dieu interviendra d'une manière spirituelle. Je le répète, c'est un combat spirituel. Mais nous, les chrétiens, nous devons prier pour que la totalité des païens soit sauvée. Enfin, le groupe qui doit être rentré, le Seigneur y sera quand le dernier va rentrer. Et moi, je crois qu'on n'en est pas loin. C'est pour ça. Si vous n'êtes pas convertis, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, ou si vous faites partie de ceux qui sont une fois dedans, une fois dehors, vous savez, comme si un des fils de Joe, imaginez jusqu'à ce que la porte se ferme, un des fils de Noé qui dit « Moi, je sors, je rentre. Je sors, je rentre. Ouais, je fais comme ça me plaît, moi. » Et que la porte se soit fermée. Et il y a des chrétiens, ils sont comme ça, ils rentrent, ils sortent, ils se repentent, ils reviennent, ils viennent à l'église, ils abandonnent Dieu, ils retombent dans le péché. « Oh, mais Dieu pardonne. » Oui, c'est vrai. Mais mes frères et sœurs, ils voudraient mieux pas jouer parce que la porte va se fermer. Ce qui se passe, mais mes frères et sœurs, je vous assure, on sait quand il va pleuvoir, on sait quand il va faire chaud, on sait s'il va faire du vent, on sait, en plus aujourd'hui avec les satellites, on sait 10 fois plus, 100 fois plus, et on devrait discerner que la Russie, l'Iran, la Turquie, la Somalie, la Libye sont en train de se coaliser pour détruire Israël. Ils veulent détruire Israël. Cette guerre, elle est inévitable. Elle arrive, elle vient, l'Église ne la verra pas. Par contre, les chrétiens qui auront été légers avec Dieu, ils vont voir ces choses. Les chrétiens, ils vont pleurer et grincer des dents parce qu'ils n'auront pas réfléchi à ces choses. Alors je pense aussi que c'est à moi de vous aider. Mais mes frères et sœurs, vous avez lu l'Apocalypse à partir du chapitre 6, il y a l'ouverture des sceaux. Il y a une guerre où il est dit qu'un tiers de la terre va périr. Un tiers de la terre. 2 milliards 500 millions de personnes, vous voulez me dire, M. Hugo, vous plaisantez. Écoutez-moi, aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé hier? Vous avez vu la France, les États-Unis? Vous avez vu avec un missile à 1000 km à l'intérieur de la mer, ils sont capables de cibler un entrepôt au mètre près. La guerre, c'est la science la plus sophistiquée qui existe aujourd'hui. Ils ont dépensé des milliards. Les États-Unis dépensent 2 milliards par jour pour la guerre. 2 000 millions par jour. Nous ne nous rendons pas compte. Alors, moi je pense quand même, puisque cette guerre aura lieu après l'enlèvement, que les États-Unis ne pourront pas aider Israël. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont quand même, même s'ils sont en confusion, ils sont blindés de chrétiens. Moi, j'ai lu des articles, même au gouvernement. Même, regardez, quoi s'appelle le vice-président, mais celle qui s'occupe des Nations Unies. Elle est chrétienne, ouvertement, elle l'affiche. Au Pentagone, il y a des milliers de gens qui travaillent, qui sont chrétiens. Ça va fragiliser énormément les États-Unis, l'enlèvement de l'Église, au niveau de la direction des États-Unis. Donc les États-Unis ne seront pas en état d'aider Israël. Et c'est là que l'Antéchrist va attaquer, que Gog, qui représente le président de la Russie, puisque c'est l'extrême nord, écoutez-moi, je vous le dis, je peux me tromper, mais je ne crois pas que ce soit possible. En tous les cas, que ce soit le président de la Russie, que ce soit le président de la Turquie, un homme va être tiré par Dieu pour aller détruire Israël et Dieu va protéger son peuple. Mais l'Église sera enlevée avant. Est-ce que vous êtes conscient de ces choses ? Ou est-ce que vous êtes énervé parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, les jeunes y manifestent ? Tout ça, c'est contrôlé. Est-ce que vous le comprenez ? Vous le comprenez, ça ? Ça vous énerve, les manifestations ? Ça vous énerve ? Oui. Vous avez vu ce qui se passe ? Ça fait pitié quand même. Quand on voit des CRS se battre contre des jeunes, il y a peut-être un papa et un fils contre. Ça doit arriver, ça, des fois. Ça fait pitié. C'est contrôlé. Notre cher monsieur Macron, je peux vous dire qu'il contrôle les choses. Et il faut prier pour lui. Il faut prier pour notre pays. Parce que quand la totalité des païens, des nations païennes seront entrées dans l'Église, l'Église va être enlevée et cette guerre, elle va être en place. Et je peux vous dire qu'après l'enlèvement de l'Église, quand le dictateur va venir, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire, les chrétiens ? Vous savez ce qui va arriver ? Pour rester chrétiens, ils devront être tués. Cette fameuse marque de la bête viendra 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. Elle ne vient pas de suite. Mais quand le dictateur se sera emparé vraiment de Jérusalem, alors je vous le dis, parce que je voulais vous donner plein de versets, je ne l'ai pas fait. Mais regardez avec moi, c'est dans le chapitre 20. Quelqu'un m'a dit dernièrement, mais monsieur Gros, vous avez lu ça où ? Vous avez lu ça où que les gens seront décapités ? Oui. Hein ? Oui, mais il y a des gens qui me posent la question. Il y a des gens qui pensent que j'invente. Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, je le vérifie. Lorsque l'Église va être enlevée, le temple d'Israël, il y aura cette guerre, le temple va être... Parce que les Arabes, il faut dire la vérité, les Arabes vont être humiliés comme ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il va y avoir des millions et des millions d'Arabes qui vont mourir dans cette guerre. Mais je vous assure, c'est impressionnant ce qui va arriver. Mais après l'enlèvement... Il n'y aura plus la paix sur la terre. Il n'y aura plus la paix. L'Église est enlevée. L'Esprit Saint qui est dans l'Église va partir, même s'il y aura 144 000 Juifs qui vont être bénis par Dieu pour évangéliser le monde. Tous les gens qui vont se convertir, une grande foule va se convertir, parce que les gens ne veulent pas se convertir maintenant, mais quand ils vont comprendre ce qui se passe, ils vont se convertir après. C'est quand même dommage. Il vaudrait mieux se convertir avant le premier voyage, parce que le deuxième, ça va être vraiment chaud, je vous le dis. Vraiment chaud. Regardez Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent jugés, donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Vous comprenez pourquoi il faut qu'il y ait l'anarchie sur la terre ? Et ceux qui, je le répète parce que certains chrétiens ne le comprennent pas. Ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie ou en Grèce, etc., prépare la venue de l'Antéchrist pour qu'on puisse remettre la peine de mort. Et je peux vous dire qu'il ne va pas se gêner pour le faire, hein. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il va venir. Que vous soyez d'accord ou pas, Jésus va revenir. C'est un combat spirituel. La prophétie nous le rappelait tout à l'heure. Restez dans la paix. Combattons le bon combat. Que l'Église prie, que vous puissiez prier. Ne résistez pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu un chrétien insulter le président de la République avec des mots grossiers. Ce chrétien ne sera jamais exaucé. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Le Seigneur Jésus va prendre l'Église avant la colère. Nous ne sommes pas des enfants de colère, nous sommes des enfants de la grâce. Est-ce que vous pouvez tous dire ce matin, je suis prêt, Jésus va revenir me chercher, je suis prêt, il va revenir, il va nous enlever. Mais je vous assure mes frères et sœurs, les gens ne lisent pas l'Apocalypse. Si vous lisiez l'Apocalypse, je peux vous dire que certains d'entre vous, vous éviteriez de pécher. Car si beaucoup de chrétiens pêchent, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils ne réalisent pas ce qui va arriver. Mes frères et sœurs, je vous ai fait que brosser. Peut-être j'y reviendrai dessus parce que je pense qu'il y a des choses vraiment à dire. Vraiment des choses à dire. C'est vrai. Monsieur Segura, le pasteur Segura, a écrit un très bon livre sur l'Apocalypse. Très très bon livre. Il est à la bibliothèque, je ne sais pas s'il en reste. Si vous voulez avoir des explications, en plus il commente le livre de Daniel, cette fameuse semaine des 7 ans là, où il va y avoir la venue de l'Antéchrist, c'est très très, franchement c'est très bien expliqué, je crois qu'il en reste, c'est le comprendre l'Apocalypse. Ouais, c'est vrai que c'est un bon livre. Mes frères et sœurs, on va demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il aide ce pays, qu'il aide les chrétiens à ne pas tomber dans la critique, le jugement, à traiter Emmanuel Macron de je ne sais pas quoi. Non, mes frères et sœurs, prions pour ceux qui nous gouvernent, prions pour notre pays, prions pour l'Église. Si vous n'êtes pas prêts, repentez-vous maintenant, n'attendez pas ce soir, parce que Jésus va revenir. Et si vous n'êtes pas baptisé, je m'adresse à nos enfants là qui sont au milieu de nous. Si vous n'êtes pas baptisé, repentez-vous maintenant. Et c'est pas du chantage que je fais, c'est la vérité. Le règne de Dieu va venir, mais avant ça va chauffer, je vous le dis. Et l'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu. Oui, nous avons chanté tout à l'heure. Louez sa majesté, tu es vraiment le seul Dieu, 2700 ans avant, de nous dire ce qui va se passer, il fallait vraiment que tu le fasses. Vraiment Seigneur, merci pour ces prophéties qui nous montrent que tu règnes au siècle des siècles et nous Seigneur, nous voulons être prêts. Et je te prie pour tous les chrétiens qui ne sont pas prêts, je te prie pour tous les chrétiens qui vivent dans le péché. Je te prie pour tous les gens qui ne sont pas encore convertis, touche-les ce matin, qu'ils réalisent que si tu as donné ces choses, ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous montrer que tu règnes et que tu sais ce que tu vas faire. Nous te prions pour que tu gardes ton peuple en Israël, tu vois tous les chrétiens, tous les juifs messianiques. Seigneur, tu es un Dieu qui protège. Seigneur, donne-nous la joie de vivre cet enlèvement, Seigneur. Vraiment, c'est notre joie de savoir que nous ne participerons pas à cette colère, que nous, tes enfants, nous sommes programmés pour la grâce éternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.